À présent, je donne la parole à son Excellence Leonarda Arisaka, vice-ministre des Affaires étrangères et de l'intégration politique de l'Équateur.
Buenas tardes.
Bon après-midi. C'est un honneur que de pouvoir m'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies et ainsi représenter l'Équateur et la révolution citoyenne. Tout d'abord, je voudrais féliciter le président Sam Kutesa de son élection à la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale. Le président de l'Assemblée doit savoir qu'il jouira de l'appui sans réserve de la délégation de l'Équateur pendant son mandat. De même, je voudrais remercier et exprimer la reconnaissance de l'Équateur à notre frère John Ash. Je salue le travail qu'il a accompli à la direction de l'Assemblée pendant la 68e session. Je voudrais vous présenter le salut fraternel et solidaire du président Rafael Correa, du ministre des Affaires étrangères Ricardo Patiño et de la Révolution citoyenne. Monsieur le Président, aujourd'hui même, le 30 septembre, il y a 4 ans, l'Équateur a pâti d'une tentative de coup d'État. Au cours de cette tentative de coup d'État, l'on a essayé de porter atteinte à la vie du président de la République, Rafael Correa Delgado. Il y a 4 ans, la démocratie en Équateur était en péril, mais la démocratie l'a emportée. La condamnation de la communauté internationale fut immédiate. Les pays, en particulier de la région, et l'Organisation des Nations Unies, ainsi que d'autres organismes internationaux, ont appuyé les millions d'Équatoriens et d'Équatoriennes qui sont descendus dans les rues et sur les places de ma patrie pour condamner le recours à la violence, pour rejeter le coup d'État, pour canaliser les aspirations de tous les secteurs de la population et pour consolider la démocratie dans mon pays. J'exprime ma gratitude au secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, qui avait fait immédiatement des déclarations pour mettre en garde le monde entier et qui a envoyé une mission spéciale en Équateur pour constater la situation. Le travail efficace d'Oscar Fernandez Taranco, secrétaire général adjoint, et de son équipe mérite d'être signalés et appréciés à leur juste valeur. La démocratie en Équateur en est sortie renforcée. Les auteurs de la tentative du coup d'État ont été isolés et la loi et la volonté exprimées dans les urnes l'ont emporté sur les intérêts de petits groupes, des groupes petits mais puissants qui sont rester en marge de l'histoire et dans une situation d'arriération. Pendant la nuit du 30 septembre 2010, tous les chefs d'État de l'UNASUR se sont réunis à Buenos Aires pour appuyer le gouvernement équatorien et le président Rafael Correa. Le résultat de cette réunion, c'est que les 12 pays d'Amérique du Sud ont approuvé un protocole additionnel au traité constitutif de l'UNASUR, protocole qui a permis d'établir la clause démocratique qui vise à dissuader la rupture de la démocratie dans la région ou les menaces sur la démocratie dans notre région. En Équateur et en Amérique du Sud, nous n'allons pas faire marche arrière vers le passé. Nous ne pouvons pas revenir dans le passé. L'utilisation de la force comme mécanisme d'expression et de solution de différends ne se répétera pas. Cela est apparu clairement le 30 septembre 2010. Nous avons choisi le chemin du droit et du dialogue pour l'élaboration d'un monde et d'un avenir meilleur pour nos peuples. Monsieur le Président, le gouvernement de l'Équateur, le gouvernement de la Révolution citoyenne, s'est proposé de mener à bien un changement radical dans les structures de l'État et dans le modèle politique et de développement de notre pays. Le lien entre l'Équateur et le contexte international est cohérent avec cette réalité. Le Sumak Kausai, qui dans la langue de nos peuples ancestraux signifie le bien vivre, se construit chaque jour grâce à un nouveau modèle fondé sur l'économie sociale et solidaire, en s'adossant sur la démocratie citoyenne, ce qui est alimenté par la planification. Les changements produits par le gouvernement de la Révolution citoyenne en Équateur vont clairement dans la même direction que les objectifs du millénaire pour le développement et le programme de développement pour l'après 2015, et cela se retrouve dans l'indice de développement humain des Nations Unies. Je voudrais évoquer brièvement certaines réalisations de la Révolution citoyenne au cours des 7 années et demie qui viennent de s'écouler. 1 136 000 Équatoriens, c'est-à-dire 10% de la population, ne sont plus pauvres, sont sortis de la pauvreté. Nous avons réduit le taux de chômage à 4,9%, le taux de chômage le plus faible en Amérique latine. Et nous avons maintenu une politique de hausse de salaire, ce qui fait que l'Équateur jouit des indices de valeur réelle les plus élevés de la région. Par ailleurs, l'Équateur est un leader en Amérique latine et dans les Caraïbes pour la réduction de l'inégalité, ce fléau que connaissent de nombreux pays d'Amérique latine et des Caraïbes. La compétitivité de l'Équateur ne se fonde plus sur la précarisation ni l'exploitation de la main-d'œuvre. La compétitivité de mon pays maintenant se fonde sur les investissements publics, les routes, les ports, les aéroports, les télécommunications, la production d'électricité, les systèmes de justice et de sécurité citoyenne. Les investissements publics de l'Équateur sont les plus élevés de tout le continent, avec 15% du PIB en 2013, c'est-à-dire le triple, de la moyenne latino-américaine. Grâce à cela, nous avons gagné 15 places au classement de la compétitivité d'après le Forum économique mondial. L'éducation générale de base est maintenant universalisée, conformément à l'un des objectifs du millénaire à l'horizon 2015. Le travail des enfants et des adolescents a été réduit sensiblement. 82 lycées du secteur public sont devenus membres de l'organisation du baccalauréat international. 82 lycées. Et on prévoit qu'en 2017, le nombre de lycées passera à 500 pour les lycées membres de l'organisation du bac international. Grâce à cette transformation de l'éducation que connaît l'Équateur, 179 290 étudiants sont passés du système d'éducation privée au système d'éducation public. Autrement dit, au cours des deux dernières années, 19% des étudiants ont quitté les lycées et les écoles privées pour aller étudier dans les collèges, lycées et écoles de l'État. Nous vivons une véritable révolution éducative. L'Équateur a investi dans l'enseignement supérieur presque 2% du produit intérieur brut, plus du double de la moyenne de l'Amérique latine. Le gouvernement de l'Équateur a financé jusqu'à présent, au cours de ses 7 années et demie de gouvernement, 8 000 boursiers qui étudient à l'étranger. La majorité de ces boursiers suivant des programmes de maîtrise ou de doctorat dans les meilleures universités du monde. Cela représente le plus grand investissement en bourse par rapport au produit intérieur brut dans toute l'Amérique latine. Je mentionne toutes ces réalisations de la révolution citoyenne et de nombreuses autres réalisations que je ne peux pas énumérer faute de temps, car toutes ces réalisations avaient été remises en cause le 30 septembre 2010, il y a 4 ans aujourd'hui. Ces avancées ont été obtenues grâce au fait que la démocratie l'a emporté et parce que le gouvernement de l'Équateur a continué d'œuvrer pour le bien commun de sa population. Monsieur le Président, le défi le plus important que doit relever l'État équatorien, en même temps que la lutte contre la pauvreté, c'est la transformation de son économie. Et dans ce cadre, le changement de la matrice de production de notre pays. Le changement de la matrice de production de notre pays. Pour que soit viable l'objectif de transformer le modèle interne et la matrice de production, nous déployons des efforts considérables pour dynamiser le développement productif, les flux commerciaux, l'investissement étranger direct non spéculatif visant des secteurs soigneusement choisis et aussi obtenir des transferts de technologies et le financement de projets stratégiques. L'objectif fondamental de la politique extérieure de l'Équateur, en conséquence, c'est de renforcer le développement endogène du pays tout en équilibrant ses relations internationales. Cela implique d'élargir les réseaux politiques, commerciaux, économiques et sociaux avec un autre regard qui vienne compléter le schéma d'intégration que notre pays a mis en œuvre de façon classique au niveau mondial. Monsieur le Président, l'Équateur réaffirme sa préoccupation concernant le défi que représente le réchauffement de la planète. C'est pour cette raison que mon pays, dans le cadre de la transformation de sa matrice de production et la matrice énergétique, promeut l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, avec moins d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, avec l'utilisation à grande échelle de cuisinières à induction et l'optimisation de l'utilisation de matières premières en réduisant le plus possible les gaspillages. Cependant, la capacité des pays en développement d'atteindre une série d'objectifs figurant dans le programme de développement pour l'après 2015 sera directement proportionnelle à la mise à disposition continue de ressources par les pays développés pour la mise en œuvre en temps opportun de plans et de projets pour faire face à des catastrophes naturelles provoquées par des phénomènes climatiques exacerbés par l'action de l'homme, conformément à l'application du principe de responsabilité commune mais différenciée. Mon pays remercie l'invitation lancée par le secrétaire général pour participer au sommet sur le changement climatique qui a eu lieu à New York le 23 septembre dernier. Nous avons été les témoins de décisions louables prises par certains pays développés concernant leurs plans nationaux d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, en particulier l'annonce de plusieurs pays, notamment la France, l'annonce d'augmentation des ressources disponibles pour ce qui est du Fonds vert pour le climat. Malgré ces annonces, les résultats sont en deçà de l'objectif d'atteindre un montant de 15 milliards de dollars d'ici à la fin de cette année. Les pays en développement demandent aux pays développés un niveau supérieur d'ambition pour ce qui est de leurs plans et politiques nationaux afin de faire face aux conséquences planétaires de cette réalité scientifique irréfutable. Monsieur le Président, la politique étrangère équatorienne privilégie maintenant le renforcement des relations sud-sud dans une perspective d'intégration souveraine des peuples et la construction de nouveaux espaces de gouvernance régionale. Ainsi, l'Équateur mise sur une intégration harmonieuse sud-américaine et latino-américaine. La construction d'un monde multipolaire et la démocratisation des organismes internationaux, afin de construire ainsi un ordre mondial plus juste et plus équitable. Nous prônons le multilatéralisme et nous impulsons des processus novateurs d'intégration, de coopération pour le développement et de dialogue politique harmonieux. À cette fin, aussi bien l'UNASUR que l'ALBA et la CELAC constituent un espace privilégié et cela représente des priorités nationales au moment d'élaborer des mécanismes d'intégration convergente. À propos de l'UNASUR, j'ai le plaisir de vous informer que bientôt le nouveau siège de l'UNASUR sera inauguré à Quito, au milieu du monde, sur l'équateur, donc le point de convergence de deux hémisphères et de la fraternité sud-américaine. Dans quelques mois, en janvier 2015, l'Équateur prendra la présidence de la CELAC. Et l'Équateur se propose d'y dynamiser le programme d'intégration régionale de l'Amérique latine et des Caraïbes en approfondissant la concertation politique au sein de notre région. Cette intégration continuera d'être dynamisée en se fondant sur le respect du pluralisme et de la diversité des États. Le gouvernement équatorien a impulsé la création de ce mécanisme d'intégration. Sa constitution a représenté un effort de grande ampleur. La CELAC, la communauté des États latino-américains et des Caraïbes, n'a exclu aucun État latino-américain ni des Caraïbes. Nous avons rejeté fermement les embargos et les sanctions unilatérales. Notre bataille permanente est livrée contre l'inégalité et la pauvreté. Monsieur le Président, il faut surmonter les injustices. Il faut éliminer les injustices. Et c'est pour cela qu'il est inacceptable que, depuis plus de 20 ans, le blocus des États-Unis d'Amérique contre la République sœur de Cuba persiste. Bien que Cuba ait obtenu l'appui de l'Assemblée générale pendant 21 ans, nous rejetons également que l'on fasse figurer Cuba sur la liste des pays qui promeuvent le terrorisme. Par ailleurs, Monsieur le Président, encore une fois, nous souhaitons réaffirmer que nous misons sur la solution au moyen du dialogue aux conflits qui existent au sujet des îles Malouines, des îles Argentines. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne doit se conformer à la quarantaine de résolutions qui a permis à l'Assemblée générale de se prononcer à ce sujet. Plus de 40 résolutions. En même temps, nous appuyons l'Argentine dans les efforts qu'elle fait pour faire face aux effets pernicieux des fonds spéculatifs. L'Argentine n'est pas seule à livrer cette bataille. L'Argentine peut compter sur la solidarité de l'Équateur et de toute notre région, ainsi que sur les principes de la raison. En ce qui concerne la Palestine, je voudrais dire que le 17 juillet dernier, le gouvernement équatorien a condamné énergiquement l'incursion militaire d'Israël dans le territoire palestinien et a exigé une cessation immédiate des opérations de l'armée israélienne et des attaques sans discernement contre la population civile dans la bande de Gaza. Mon pays a lancé un appel à la communauté internationale afin qu'elle assume ses responsabilités pour faire cesser les attaques aveugles afin de sauver la vie de personnes innocentes et préserver la paix et la sécurité internationale. Comme preuve d'appui en faveur de la cause palestinienne, l'Équateur a décidé d'ouvrir une représentation diplomatique en Palestine. Cette mission diplomatique est pleinement opérationnelle à Ramallah. Et en même temps, l'Équateur a envoyé il y a quelques jours une aide humanitaire à la bande de Gaza. Et au cours des prochains jours, la deuxième cargaison d'aide humanitaire arrivera à la bande de Gaza. Nous allons remettre cela à l'autorité nationale palestinienne. Monsieur le Président, en 2016, l'Équateur sera le siège du sommet entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, acronyme espagnol ASA, sommet Amérique du Sud-Afrique. Une responsabilité qui nécessite de vastes préparatifs, mais cela constitue aussi l'occasion d'élaborer des politiques solidaires et convergentes avec nos frères de l'Afrique. Le moment est venu d'approfondir les relations entre l'Afrique et l'Amérique latine. C'est pour cela que l'Équateur a décidé d'ouvrir de nouvelles ambassades en Afrique au cours des prochains jours. Nous allons ouvrir des ambassades en Algérie, au Nigeria, en Angola. Nous allons renforcer les ambassades que l'Équateur a déjà sur le continent africain. Et au cours d'une deuxième étape, nous allons ouvrir de nouvelles missions diplomatiques en Afrique. Nous allons travailler avec nos frères africains pour pouvoir disposer d'avantages mutuels et de gains partagés. Je passe à Habitat 3. Pour l'Équateur, il y a une source de fierté. C'est aussi une grande responsabilité, puisque l'Équateur a été choisi pour organiser la prochaine conférence mondiale sur le logement et le développement urbain durable, le sommet Habitat 3, et cela en 2016. En 2016, l'Équateur va accueillir le sommet des chefs d'État de la CELAC, le sommet des chefs d'État de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, et aussi de la conférence Habitat 3. Depuis plus d'un an, nous avons commencé un travail intense pour développer les principaux thèmes de la croissance urbaine accélérée, correspondant aux réalités de nos pays. Travail qui a été exposé au cours du dernier forum urbain mondial qui a eu lieu en avril dernier à Medellín, en Colombie. Nous espérons que cela va produire des synergies pour progresser vers un nouveau programme mondial pour le développement urbain durable que on devrait adopter lors de la conférence Habitat 3. Le gouvernement équatorien, dans le cadre de ses efforts pour construire une société juste et équitable, s'est efforcé, au cours de ces dernières années, de mettre en œuvre un système de droit dans le domaine de l'habitat et du développement urbain, en se fondant sur un principe qui guide son action, à savoir le droit à la ville, considéré non comme un droit unitaire, mais comme un ensemble de droits interdépendants liés au territoire. Les politiques d'habitat et d'établissement humain, ainsi que de logement, correspondent aux aspirations de l'État de construire, comme je vous le disais, une société du bien vivre. Grâce à la réglementation publique, conformément à cette notion que promeut l'Équateur, en coexistence avec la nature, l'Équateur est le seul pays du monde qui, dans sa constitution, ait donné des droits à la nature. En ce qui concerne la réforme du système des Nations Unies, Monsieur le Président, l'Équateur a présenté de façon active et constructive des propositions très approfondies et intégrées en vue de changements dans certains organismes internationaux, afin que ceux-ci soient plus efficaces, plus démocratiques, plus participatifs et plus inclusifs. Nous souhaitons l'universalisation et la transparence de ces organismes, ainsi qu'une meilleure représentation, une représentation plus équitable des pouvoirs de consultation et de décision pour tous les États, en particulier les pays en développement. Et justement, conformément à ces principes, le gouvernement de l'Équateur a impulsé la réforme du système de gouvernance mondial afin de démocratiser la prise de décision et rendre transparente la gestion de tous les organismes multilatéraux. Dans le cadre de cette entreprise, de nombreux pays nous accompagnent, de nombreux États membres de l'ONU. L'Équateur propose d'infléchir le système des Nations Unies, car sa structure actuelle ne donne pas de bonnes réponses aux conflits internationaux. ne donne pas de réponse à la conjoncture internationale conflictuelle. L'Équateur mise sur la démocratisation du Conseil de sécurité qui devrait être constitué de blocs afin de trouver un équilibre et d'assurer la représentativité et le principe d'égalité des États. Ce n'est qu'ainsi que le Conseil pourra jouer son rôle pour ce qui est du maintien de la paix et de la sécurité internationale, et ce sont les objectifs visés par l'Équateur. Nous sommes à la veille du 70e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Nous avons l'obligation historique de moderniser, de démocratiser l'ONU en renforçant le rôle de l'Assemblée générale pour ce qui est de la prise de décision, comme par exemple pour élire les juges de la Cour internationale de justice et aussi pour élire le secrétaire général de l'ONU. Monsieur le Président, dans le panorama actuel, nous constatons avec préoccupation qu'en même temps que des progrès ont été enregistrés en 2014, de nombreuses menaces pèsent sur l'humanité. De nombreuses menaces, des situations de conflits armés, des crises humanitaires, des atteintes aux droits de l'homme, des violations du droit international. Tout cela menace des populations entières. Cela exige une riposte d'urgence de la communauté internationale. Le gouvernement de l'Équateur a exprimé sa conviction au sujet de la nécessité de respecter le droit international et de trouver des solutions négociées et pacifiques. L'Équateur a rejeté tout type d'interventionnisme et toute action unilatérale portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des États, ainsi qu'aux droits de l'homme. Toute action qui se fasse en marge de la légalité internationale. Nous rejetons totalement cela. De même, l'Équateur a condamné fermement tous les agissements terroristes, que ce soit de la part de groupes irréguliers ou qu'il s'agisse du terrorisme d'État. L'Équateur a condamné les agissements de l'État islamique, aussi bien en Irak qu'en Syrie. Ces défis mondiaux doivent être relevés par l'ONU, qui est l'instance la plus compétente pour aborder ces difficultés et pour trouver des réponses face aux difficiles situations que nous affrontons, et sans aucun doute avec le concours et la solidarité de tous les États membres. Monsieur le Président, nous faisons des efforts afin que le droit international soit notre norme de comportement. Il y a quelques mois, dans cette même salle, les États membres ont adopté une résolution demandant le respect de la vie privée à l'époque numérique. C'était le titre que l'on a choisi face à un autre abus, celui de la surveillance mondiale. Et encore une fois, on se retrouve dans une situation où ce qui fait qu'on est noté, surveillé, espionné. L'Équateur, en même temps que d'autres pays, s'est porté coauteur de la résolution impulsée par l'Allemagne et par le Brésil. Et grâce à cet acte juridique, on a amorcé un nouveau processus de définition des droits de l'homme avec le droit à la vie privée. Cette résolution, adoptée par consensus, constitue le rejet face à une attitude d'abus ou d'atteinte. Ces abus ont été dénoncés par un citoyen australien qui a estimé que le monde devait être informé de ce que l'on faisait au sujet des souverainetés. Cette décision de ce citoyen australien a causé pour lui la persécution la plus cruelle et cela l'a amené à demander une protection pour sa vie même compte tenu des menaces réelles dont il a fait l'objet. Je parle de Julian Assange. Lié maintenant à la réalité équatorienne, puisqu'il jouit du droit d'asile que mon pays lui a octroyé. Mon pays, en effet, a conclu que M. Assange méritait ce statut et ce droit d'asile. Il vient de vivre 2 années de cette nouvelle réalité. 2 années de la vie de M. Assange. 2 années sans liberté de circulation. deux années pendant lesquelles il a été enfermé dans un petit espace en attendant que la justice se fasse. La justice, cette justice tant souhaitée, Monsieur le Président. Lorsqu'on accorde le droit d'asile, on le fait principalement pour que soient immédiatement reconnus et respectés les droits de l'homme fondamentaux. Le plus important, le droit à la vie. Il a été très difficile de convaincre l'autre partie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, difficile de convaincre le Royaume-Uni que cette situation doit être prise en considération et que les droits de l'homme fondamentaux de Julian Assange doivent être respectés. L'Équateur continuera de travailler de façon inlassable jusqu'à ce qu'on trouve une solution à cette affaire. Et pour cela, nous espérons pouvoir disposer de l'appui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et aussi du Royaume de Suède. Je lance un appel au Royaume de Suède pour qu'il fasse appliquer l'un des principes juridiques les plus importants qui soit reconnu au niveau international et également reconnu par le système juridique suédois, la tutelle judiciaire effective. Après 4 années, le bureau du procureur de ce pays n'a pas été en mesure d'entendre les dépositions de Julian Assange, malgré la pertinence de le faire dans un autre pays, comme le prévoient d'ailleurs les lois suédoises, et cela malgré les nombreuses offres de coopération judiciaire présentées par l'Équateur et malgré la volonté manifestée par les avocats de Julian Assange eux-mêmes. Pour ce qui est d'autres questions, et j'en arrive à la fin de ma déclaration, Monsieur le Président, je voudrais mentionner les sociétés transnationales. Au cours de ces dernières années, on a vu une augmentation des plaintes déposées par les entreprises transnationales devant des tribunaux internationaux d'arbitrage, des plaintes contre des États et des peuples du Sud. Ces litiges représentant des millions de dollars, plusieurs millions de dollars, comme l'affaire Chevron-Texaco en Équateur, sont une menace pour les ressources budgétaires des pays et cela remet en cause la validité et la légitimité de la juridiction nationale des différents États. La portée de ce problème pourrait compromettre jusqu'au plan de développement des pays du Sud en Amérique latine et dans d'autres régions du monde. Dans ce contexte, nous sommes en train de créer au sein de l'UNASUR, un centre d'arbitrage régional. Nous sommes en train de créer un centre consultatif juridique pour les litiges dans le domaine des investissements. Nous élaborons un code de conduite pour les arbitres et les médiateurs dans le cadre de l'UNASUR. Nous sommes en train de mettre en place avec d'autres régions du monde un observatoire pour les transnationales. Tout cela dans le but de créer des mécanismes d'appui pour l'analyse, le suivi et les capacités de riposte des États en ce qui concerne la prévention et le règlement de différends ou de litiges dans le domaine des investissements. L'Équateur, avec l'Afrique du Sud, a également impulsé une proposition dans le cadre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le but étant de disposer d'un instrument contraignant pour ce qui est d'imposer des obligations juridiques internationales en matière de droits de l'homme aux sociétés et entreprises transnationales. Et l'on a décidé de mettre en place un groupe de travail pour étudier cette initiative au Conseil des droits de l'homme. Mon pays accorde une importance particulière à cette question et œuvrera pour parvenir à des accords avec les États intéressés, car il s'agit d'une question d'une importance fondamentale et nous sommes sûrs de pouvoir bénéficier de l'appui de tous les États. Enfin, Monsieur le Président, je voudrais réaffirmer au secrétaire général de l'ONU notre reconnaissance, la reconnaissance de l'Équateur, puisque l'ancien vice-président de la République équatorienne, Lénine Moreno, a été nommé envoyé spécial du secrétaire général sur les handicapés et l'accessibilité. L'Équateur continuera d'appuyer toutes les initiatives de l'ONU en vue de promouvoir et de protéger les droits des personnes handicapées et de leurs familles. Pour conclure, Monsieur le Président, au début de mon intervention, j'ai mentionné plusieurs des réalisations de la Révolution citoyenne au cours des 7 années et demie qui viennent de s'écouler. Il s'est agi de transformations de grande ampleur avec des répercussions considérables. Il s'est agi de transformations historiques. Mon pays veut travailler avec tous les États membres pour parvenir à une véritable transformation de l'Organisation des Nations Unies. Nous avons d'immenses défis à relever, aussi bien pour promouvoir le développement que pour le maintien de la paix, la réduction des inégalités et la diminution de la pauvreté. L'Équateur proclame son engagement total pour œuvrer ensemble dans cette entreprise historique. J'espère vous voir l'année prochaine à l'Assemblée générale lors de sa 70e session. Et à ce moment-là, nous pourrons célébrer la prise de décision importante. Je vous remercie beaucoup. Bon après-midi. Je remercie le vice-ministre des Affaires étrangères et pour l'intégration politique de l'Équateur de sa déclaration.